DW, le club de l'auditeur.
Bonsoir, bonsoir. Je suis Eline Tsongo à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Chez nous, l'ambiance est vraiment électrique, s'il faut le dire, et les candidats se battent chacun comme il peut pour essayer un peu de se trouver de la place au niveau où il a posé sa candidature. Cependant, nous avons un problème sérieux avec la rébellion. Vous savez, notre ville est au Nord Kivu, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et qui vit depuis un certain temps sous menace des rebelles du M23. Donc, nous avons vraiment la peur et nous ne savons pas si nous arriverons aux élections tout en étant en sécurité. Parce qu'il y a des localités voisines de la ville touristique de Goma qui sont en train de passer sous le contrôle du M23, comme par exemple la cité de Mouchaki qui est à moins de 40 km dans l'ouest de la ville de Goma qui vient de passer sous le contrôle du M23. Donc la population est vraiment inquiète. Et on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le plus grand souhait de la population du Nord Kivu, c'est que les pays trouvent un président qui saura vraiment régler les problèmes sécuritaires. Comme vous le savez, c'est depuis maintenant 3 décennies que le Nord Kivu vit des guerres en répétition. Et le plus grand souhait des Kivusiens, des Congolais de l'Est, c'est de trouver quelqu'un qui saura arranger une fois pour toutes la situation sécuritaire au niveau de cette région, de cette partie du pays.
Les Congolais sont appelés à se rendre aux urnes pour les élections générales prévues le 20 décembre prochain. Alors, quels sont leurs espoirs? On en parle dans cette édition du Club des auditeurs et internautes, l'émission à votre écoute et votre service, comme tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h, temps universel. Mireille Drou micro, bienvenue à toutes et à tous. Les élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales doivent se tenir le 20 décembre en République démocratique du Congo, un pays immense aux quelques 100 millions d'habitants. Les défis sont de taille pour l'organisation de ces élections sur le plan technique et logistique, puisque la RDC compte très peu de routes et que l'insécurité transforme certains territoires en zones interdites. Sur le plan politique, le président sortant, Félix Tshisekedi, arrivé au pouvoir en janvier 2019, après des élections controversées, est candidat à sa succession face à une vingtaine d'autres postulants, dont seuls quelques-uns battent campagne en fonction de leurs moyens et de leur implantation politique. Et l'on craint cette fois encore des contestations parce que le soupçon plane sur la transparence du scrutin. Le fait que les cartes d'électeurs fassent défaut n'arrange rien. Ces cartes délivrées au début de l'année, lors de l'enregistrement des électeurs sur les listes électorales, faisaient aussi office de cartes d'identité. Seulement voilà, les photos et écritures se sont effacées depuis sur un nombre conséquent de lots défectueux de cartes. Du coup, les gens appelés à voter doivent depuis plusieurs semaines faire des démarches pour en avoir de nouvelles. La seule inscription sur les listes électorales leur suffira-t-elle à le faire? Pas sûr. Des doutes subsistent donc quant à ce scrutin. Mais beaucoup d'électeurs sont néanmoins déterminés à aller voter, comme Rebecca de Lubumbashi.
Bon, autour de moi, en commençant par moi, j'ai l'engouement d'aller voter, je veux savoir qui vont nous représenter. Bon, c'est le cas pour tout le monde, je crois.
Elles sont attendues, ces élections, avec impatience?
Oui, avec impatience. Nous voulons voir qui vont nous diriger dans les prochaines années qui vont venir.
Oui, et quelles sont les attentes, justement, des gens autour de vous, et peut-être à commencer par vous, peut-être comme femme, est-ce que vous avez des attentes particulières, justement? Quelles sont les priorités, vos espoirs?
Les priorités, c'est d'abord les sociales, la vie qui coûte cher.
Oui.
D'abord, la priorité pour moi, c'est les sociales, vraiment. La vie sociale, les études, l'enseignement, nous voulons, parce que il y a des promesses.
Oui.
Soit disant que après les élections, il y aura la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire.
Oui.
Et nous voulons voir ça.
Mais il n'a pas été mis en place déjà, l'enseignement gratuit?
Au niveau secondaire.
Ah oui.
C'est encore au niveau primaire.
Oui. Donc ça a fonctionné. Ça a été introduit et ça marche plus ou moins bien déjà dans le primaire.
Mais ça marche un peu bien. Vous voyez. Mais, ça marche un peu bien.
Mais pas encore dans le secondaire.
Ce n'est pas totalement gratuit, vraiment. Je ne peux pas dire que c'est totalement gratuit, mais ça va quand même.
Oui.
Ça permet à beaucoup d'enfants d'aller à l'école.
Et ça soulage les parents.
Ça soulage un peu.
Oui.
Même à 60%.
Et donc maintenant, ce que vous attendez, c'est que l'enseignement soit aussi gratuit dans le secondaire.
Le secondaire, oui. Mm-hmm. Au niveau secondaire, oui. Mm. C'est ce que nous voulons.
Donc ça, c'est une des priorités.
Oui.
Et ensuite, vous parliez de...
D'après les promesses qui nous sont faites, nous attendons voir si ça sera fait.
Ça, c'était les promesses du gouvernement. Et est-ce que vous avez l'impression, dans la pléthore de candidats qu'il y a, que d'autres candidats ont promis aussi la même chose? Vous avez l'impression qu'il y a une différence réelle dans les promesses et les programmes électoraux des uns et des autres?
Pendant toutes les campagnes du monde, il y a différentes promesses selon les candidats. Bon, moi, selon les candidats que moi je préfère, que je soutiens, c'est ce que je viens de vous annoncer là.
Oui, et il y en a plusieurs qui mettent la priorité là-dessus, sur les éducation,
la scolarité, la gratuité de la scolarité au niveau secondaire.
Oui.
Non, non, non. Je n'ai pas encore entendu ça.
Ça, c'était donc plutôt du côté
du président. Il y a d'autres qui promettent de promouvoir l'agriculture, de créer les emplois, de soutenir les femmes. Il y a beaucoup de promesses.
Mais vous y croyez à ces promesses ou vous croyez que ce sont juste des promesses électorales et qu'elles ne seront peut-être pas tenues?
Bon, même dans les pays développés, dans les pays occidentaux, toutes les promesses ne s'accomplissent. Les dirigeants n'arrivent pas à accomplir toutes les promesses.
Ah bien sûr, c'est partout pareil.
Même chez vous, en Europe, ça, ils promettent mais ils n'accomplissent pas.
Bien sûr, c'est clair.
Mais nous avons foi qu'ils vont, une partie de la promesse va être accomplie.
Oui. Et vous disiez que certains candidats justement parlent de l'agriculture ou d'autres, par exemple, des femmes.
La promotion de la femme.
Oui. Qu'est-ce qu'il faudrait selon vous en ce qui concerne la promotion de la femme? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer?
Surtout l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de femmes ont de belles idées. Elles veulent entreprendre, mais elles n'ont pas de moyens. Elles veulent entreprendre dans l'agriculture, par exemple, dans beaucoup de choses. Mais elles n'ont pas de moyens. Comme vous savez, dans nos pays africains, les femmes sont marginalisées. Vous voyez?
Oui, bien sûr.
Ceux qui tiennent la monopole des finances, ce sont les hommes.
Oui.
Nous, les femmes, on n'a rien. Quand on cite la femme, c'est la pauvreté. Vous voyez directement la pauvreté. Vous voyez?
Oui. Mais est-ce que vous
pensez... C'est un peu difficile. Bon, il y a des candidats qui promettent qu'ils vont promouvoir les femmes. Bon, nous attendons voir ça.
Mais est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de femmes candidates, je ne parle pas seulement à la présidence, mais aussi aux autres élections locales et législatives, ça pourrait aider? Il n'y a finalement pas beaucoup de femmes qui sont candidates.
Les femmes qui vont voter, les femmes.
Oui, est-ce que vous croyez que s'il y avait plus de candidates, ça aiderait?
Nous voulons ça, mais ça n'arrive pas. Jamais. On ne voit pas ici les femmes qui soutiennent les femmes pendant les élections. Je ne vois pas. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup de femmes qui seraient des députées, qui dirigeaient même ces pays.
Ouais.
Parce que dans nos pays, nous avons beaucoup de ces plaintes de femmes que des hommes.
Et vous pensez qu'elles-mêmes, elles sont intéressées à postuler comme candidates ou elles sont bloquées par les hommes?
Bon, je n'en vois pas trop. Hein. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, pour cette année, elles peuvent être même à 30, à 20 ou 30%.
Ça pourrait améliorer les choses.
Mais voir les femmes, soutenir les femmes, bon, je n'en vois pas vraiment. Si c'était le cas, on allait parler d'autre chose.
Oui.
Ça n'allait pas être comme ça.
Vous pensez que les femmes ne font pas elles-mêmes confiance aux autres femmes?
Je crois, oui.
Ou c'est peut-être aussi une question d'argent, parce que les femmes n'ont pas suffisamment d'argent pour battre des campagnes électorales efficaces et du coup convaincre les populations?
Ça aussi, c'est ça aussi. Mais les femmes n'ont pas de moyens pour battre campagne, je sais. Mais nous, en Afrique, nous prenons une femme comme quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui ne peut pas faire quelque chose de bien. Il faut un homme pour bien nous diriger. C'est ce que nous avons grandi avec ça dans la tête.
C'est la mentalité, oui.
Oui, c'est la mentalité, oui.
Et c'est difficile de faire évoluer les
Mais
choses.
Mais c'est difficile de faire confiance, de soutenir une femme, surtout au niveau de la présidence.
Ouais.
Avoir une femme présidente dans mon pays, je ne crois pas que ça peut être possible.
Pas pour l'instant, en tout cas. Il faut espérer que ce sera le cas un jour.
Pour l'instant, les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes.
Oui, parce qu'il y a eu déjà des femmes quand même, par exemple, Mme Johnson-Sirleaf, enfin en Afrique, je veux dire.
En Afrique, au Libéria, oui. Je sais. Il faut voir par quels moyens elles sont parvenues au pouvoir. Mais pour le cas de Johnson, je sais. Mais c'est difficile. Et puis c'est rare.
Et en matière de santé, est-ce que vous pensez que ça c'est un domaine qu'il faudrait aussi améliorer?
Oui, maintenant là, nous avons déjà la gratuité au niveau de la maternité.
Oui.
Les femmes accouchent gratuitement. Ça a déjà commencé.
C'est une bonne chose, ça, déjà.
Dans les structures de l'État, oui. Oui,
dans les grandes villes.
Même dans nos territoires, dans nos villages, oui.
Mais ça, c'est déjà une bonne chose, en effet, oui.
Oui.
Mais autrement, en matière de soins, vous pensez qu'il y aurait encore autre chose à faire en matière de santé?
Bon, espérons. Moi, je n'ai pas déjà entendu des promesses sur ça, vraiment. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un parler de la gratuité des soins. Bon, ça peut arriver avec le temps.
Et donc, vous disiez la vie chère. Selon vous, quelle serait la solution? Qu'est-ce que les futures autorités devraient faire pour que la vie soit un petit peu plus souriante pour les Congolais?
Surtout promouvoir l'agriculture. Parce que ici, comme par exemple ici chez moi à Lubumbashi, la nourriture de base, l'aliment de base, c'est les foufous à base de farine de maïs.
Oui.
Mais souvent, la farine de maïs, elle nous vient de la Zambie. La Zambie, voyant que nous dépendons d'elle, elle fait du n'importe quoi. Comme cette année, la Zambie nous a cochonné. Le prix a pris de l'ascenseur. De 10 dollars arrivé jusqu'à 25-30 dollars. Le prix d'un sac de 25 kilos de farine de maïs.
Oui.
Vous voyez?
C'est fou. Oui.
Moi, nous voulons que les futurs dirigeants puissent s'intéresser à l'agriculture du maïs et d'autres choses.
Ça soulagerait le panier de la ménagère.
Pour soulager, oui, oui.
OK. Rebecca, je vous remercie pour cet éclairage et pour votre témoignage. Et puis, je vous souhaite une belle soirée.
Merci pareillement.
Au revoir.
Au revoir.
Jacques de Boutembo aurait préféré que la sécurité soit établie avant d'organiser des élections.
La réélection devrait ce qu'il dit souhaiter au sommet de l'État parce que nous n'allons pas donner le pouvoir à quelqu'un qui va contentonner. Notre pays est à danger et à guerre. Et celui qui tient le bateau de commandement pour le moment, il semble avoir déjà maîtrisé la situation. Alors, on ne peut pas donner le pouvoir à quelqu'un qui va chercher encore d'autres moyens de tâtonnement qui peut encore nous ruiner davantage, sans cesser. Normalement, on ne devrait pas aussi organiser les élections tant qu'une partie du pays n'est pas encore sécurisée. On devrait d'abord finir avec la guerre et voir comment encore organiser les élections.
Les Congolais avaient beaucoup espéré du président Félix Tshisekedi, mais la déception a changé l'image du gouvernement, écrit Jean-Claude de Bukavu. Certainement, la RDC a besoin de tourner cette page, affirme-t-il. L'erreur est de notre côté. Nos députés que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale y sont partis pour leurs intérêts. De grosses sommes d'argent ont été détournées par les députés jusqu'aux gouvernements provinciaux, croit José de Kinshasa. Il pense néanmoins que Félix Tshisekedi sera confirmé pour un deuxième mandat. Pourtant, la majorité des Congolaises et Congolais veut le changement, écrit Léon de Kasenga, qui regrette que les élections en RDC soient compliquées. On voudrait un changement, mais avec nos opposants actuels, je ne trouve pas d'où viendra le changement souhaité, doute Espoir de Bukavu, qui pense que le président Tshisekedi sera réélu. Il s'explique.
Bonsoir, c'est Espoir?
Oui, c'est Espoir.
Ça va bien?
Oui, ça va bien.
Bon, je vous appelle sur vos attentes par rapport aux élections chez vous.
Ouais, je vois.
Vous disiez qu'à l'allure où vont les choses, vous pensez que le président en exercice va être reconduit, même si ça n'avantage rien au quotidien du peuple. Alors pourquoi vous pensez que, d'abord, ça n'arrangerait rien au quotidien du peuple?
Ce que je peux dire, nous avons vu les élections passer. C'est pas à ce qu'on s'attendait qu'on a vu. Mais on a vu des histoires et on peut dire que c'était des fabrications. Comme on peut dire, des rats de laboratoire, on a fabriqué quelque chose et puis on nous a montré ça. Et cette fois-ci aussi, je ne pense pas qu'il y aura des changements. Parce que je ne vois pas un compétiteur qui peut dire qu'il est capable de l'affronter et faire la différence. Je vois que tout le monde est derrière lui. Il est là, il est suprême, partout où il passe, il a la population, il a tout. Je ne sais pas comment dire, il n'est pas bon, il n'est pas bien, mais celui qui est toujours au sommet, celui qui est en pleine place.
Est-ce que vous pensez, comme vous écriviez, qu'avec les opposants actuels, aucun changement ne viendra d'eux non plus? Vous pensez qu'il n'apportera rien d'autre que le président actuel?
Oui, ce que je peux dire, le président actuel, beaucoup ne l'aiment pas. Il n'a pas fait ce que le peuple attendait. Mais
quand vous dites il n'a pas fait ce que le peuple attendait, c'était quoi par exemple? Qu'est-ce que vous attendiez de lui?
Ok, comme la sécurité, comme les routes, nous voulions des routes de cette agricole, on voulait qu'on voit, parce que dans des milliers d'euros, c'est là où on tire ce qui se vend en ville. Mais nous nous procurons des choses de l'étranger, des farines, tout ça, tout vient de l'étranger, alors que nous avons des terres arables, tout ça on a, mais on ne peut pas s'en procurer, on ne peut pas les exploiter parce qu'on n'a pas un président comme ça qui peut être capable de réaliser sa fonction, je peux dire.
Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, par exemple, selon vous, le président, pour que, justement, les Congolais puissent approvisionner chez eux et pas importer des choses de l'étranger?
Oui, ce qu'il peut faire d'abord, ce qu'il doit faire, la première chose, c'est construire les routes.
Oui.
Si on construisait des routes, là, on ne partirait pas à l'étranger pour s'approvisionner en farine, en tout ça, aux choses de première nécessité. On ne ferait pas ça.
Parce que faute de route, les denrées ne peuvent pas être acheminées d'une région à l'autre, faute d'infrastructures routières.
Oui, c'est ça. Les routes sont impraticables. Ça veut dire qu'elles sont mauvaises, dans un mauvais état.
Oui.
Ce qu'ils pouvaient faire, c'est construire d'abord les routes. Si on construisait des routes, là, on dirait qu'il a bien géré son mandat. Mais s'il y a l'insécurité, là, on dirait qu'on ne peut pas gérer tout en un moment. Il faut gérer une chose par une, mais là, il n'a rien géré du tout.
Oui. Et vous disiez, il y a aussi un autre aspect, autre chose qu'il aurait pu faire?
Oui, l'autre aspect, je disais, c'est la sécurité.
Oui.
La sécurité, il n'a pas géré la sécurité parce que là, on a pris tout. Je peux dire, il n'y a pas de sécurité. Il y a nos compatriotes qui souffrent tous les jours. Ils déménagent du jour au jour, ils vivent d'un endroit à l'autre, ils ne vivent pas un endroit deux fois. Ils sont, je ne sais pas comment dire, je ne sais pas quel mot employer. Ils souffrent vraiment.
Oui. Et donc, vous pensez que les candidats opposants, eux, pourraient pas mieux faire que le président actuel?
En tout cas, je ne vois pas un compétiteur qui puisse l'écarter parce que tout ce, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'il est toujours favori. On va faire ce qu'on a fait l'autre fois, je ne sais pas. À ça où je suis, moi, je ne suis ni opposant, ni je peux dire que je suis seulement un citoyen qui souffre, qui veut de la liberté. Et cette liberté, je ne la trouve pas.
Et quand vous parlez de liberté, c'est quelle liberté?
La liberté, c'est avoir un emploi. Je suis au chômage, je peux dire. À part l'emploi, savoir la sécurité. Avoir la nourriture, parce qu'on peut être au chômage, mais on peut travailler, un petit travail, et avoir de quoi manger. Mais là, je peux dire que parfois, il y a des gens qui souffrent de la famine, parce qu'il n'y a pas d'emploi ici. Tout emploi, je ne sais pas, c'est compliqué.
Oui, les emplois sont surtout informels.
Oui, c'est ça.
Mais vous avez déjà travaillé ou vous n'avez jamais travaillé?
Je n'ai jamais travaillé, je suis encore jeune, si je peux le dire.
Oui. Vous avez fait des études et pas trouvé d'emploi au bout ou qu'est-ce que vous avez comme formation?
Oui, j'ai étudié, j'ai eu le diplôme d'État et puis j'ai fait des formations. Quand j'ai fait des formations, je pensais que j'aurais du travail, mais je ne l'ai pas eu.
Et dans quel domaine vous avez fait une formation? Dans quel secteur?
En tout cas, dans beaucoup de secteurs. Dans la photovoltaïque, ça cadre avec l'électricité, dans l'informatique. L'artistique, comment on dit? Dans la sérigraphie, c'est ça.
Et malgré toutes vos formations, y compris en informatique, vous n'avez pas trouvé d'emploi?
Non, pas d'emploi vraiment.
Et même en aidant à droite, à gauche, des gens qui ont besoin justement d'un coup de main, genre petit boulot, vous n'avez pas trouvé non plus?
En tout cas, je tourne seulement, je me débrouille pour vivre seulement, mais un plein emploi, je n'ai jamais trouvé.
Oui. Et selon vous, c'est dû à quoi? Comment se fait-il qu'il y ait tellement de jeunes, notamment comme vous, qui sont au chômage, qui ne trouvent pas d'emploi? Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse les fixer, qui puisse créer d'emplois, qui puisse faire le nécessaire pour que tous les jeunes aient l'emploi. Oui, c'est ça. C'est ça qui nous manque. Un dirigeant fort, un dirigeant raisonnable qui puisse faire les choses nécessaires.
Et au plan local, il n'y a pas d'aide parce que bon, c'est pas toujours le chef de l'État qui peut résoudre tous les problèmes. Au plan régional ou local, il n'y a aucun centre qui peut vous diriger, dispatcher sur des entreprises qui pourraient avoir besoin de vous, par exemple.
Oui, il y en a, mais comme je vous ai dit, on a mal choisi nos dirigeants en 2018 et ça nous hante, ça nous hante jusqu'au niveau inférieur. Ça nous hante, ça veut dire quand la tête est mauvaise, tout le reste du corps n'est pas bien. Oui, c'est ça.
Et vous allez voter quand même?
C'est mon devoir, je vais le faire. Oui.
D'accord. En tout cas, je vous souhaite bon courage, espoir, et merci à vous.
Merci à vous aussi.
David de Lubumbashi trouve, lui, des circonstances atténuantes au président Tshisekedi qui n'a pas pu réaliser toutes ses promesses.
À toutes et à tous, bonsoir. Je suis David depuis la République démocratique du Congo, Kinshasa, bien entendu, dans la province du Haut-Katanga à Lubumbashi, dans le fief de l'opposant Moïse Katumbi Tshabe. En fait, s'il s'agit de placer un bon par rapport aux élections et aux votes qui auront lieu pratiquement le 20 décembre de ce mois, je suis sûr et certain, je suis très ému, je suis très heureux de voter pour la seconde fois, puisque majeur de mon État, je ferai quand même la comparaison entre les votes précédents de 2006, 2011, mais également 2018 ans. Pour moi, en tant qu'électeur qui se trouve à Lubumbashi dans le fief de l'opposant Moïse Katumbi Tshabe, je voterai pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le second mandat, puisque en réalité, en regardant sa vision, en regardant sa bonne volonté de changer les Congos, nous avons l'assurance, nous avons quand même le témoignage, ça se voit en un clin d'œil, vu la concrétisation de certaines paroles liées aux actes, nous sommes sûrs et certains que c'est un monsieur qui a la volonté de changer le Congo et nous l'accordons encore une fois de plus la deuxième chance de continuer avec le deuxième mandat pour achever ses travaux, achever ses ambitions. Et effectivement, lorsque M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018, vraiment, il a dirigé dans un moment psychose, dans la situation un peu psychose, des grattes. Alors, dans une situation un peu psychose, dans une situation un peu compliquée, dans le sens où il était abordé par les différentes épidémies, Ebola, coronavirus, coalition avec le régime kabyliste, voilà. Il n'a pas pu vraiment arriver à atteindre l'objectif comme assigné dès le début de son mandat. Alors, nous nous sommes ici. Je suis très fier, je suis très content. Même au cours de la campagne qu'il est en train vraiment de battre ici au Congo, vraiment, il est indifférent avec les autres. Alors, les témoignages sont tellement nombreux. Le témoignage sur place, nous y en avons. Alors, je laisserai aussi le temps à d'autres personnes d'agencer leurs arguments. Mais sinon, nous avons les témoignages. Nous avons autant de réalisations qu'il a réalisées dans la province du Katanga, dans le fief de son opposant, Moïse Katumbi Tshabe. Voilà, merci.
La campagne qui permettra peut-être aux candidats de persuader les électeurs de voter en leur faveur se terminera 24 heures avant le scrutin. En attendant, l'ambiance est très agitée, avec une multitude de candidatures nationales comme provinciales, chacun donnant ses promesses, écrit Benjamin de l'Est du pays. La population pauvre, elle, ne sait pas pour qui voter, mais au finish, nous voulons la paix ici, dans l'Est de la RDC, conclut notre auditeur.
Africando, ça c'est aimé, m'a dit le système, moto monnaie.
Voilà, on se quitte pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes nos émissions, articles et informations diverses sur notre site internet, notre adresse www.com/français-sans-cédille. Sur ce, excellent week-end à toutes et à tous et restez confiants. Au revoir. Naboyi ko baby sandoto na manza kana lembi
Mario na lembi Mario na lembi
Ako betenga na zua e paizua ya lokuta sala kogoma biloko ya